Chapitre 12. De son poste de travail, Bosch regarda Ballard rallier l'équipe à la cause Sarah Pearlman, Laura Wilson. La veille, au Burt's, elle lui avait dit son intention de demander à tout le monde de venir, sauf Rawls, qu'elle ne voulait pas voir raconter tout ce qu'ils allaient faire à Nelson Hastings. Au lieu de ça, elle lui enverrait un SMS pour lui dire de prendre sa journée s'il avait toujours besoin de temps pour régler son problème à sa boutique. D'après ce qu'elle savait de son éthique de travail, elle escomptait qu'il lui enverrait un émoji poussant l'air en guise de réponse et ne viendrait pas, et pour le moment, elle ne s'était pas trompée. Elle assigna des tâches à chacun en espérant qu'avec tous ces regards nouveaux, une brèche permette de découvrir l'endroit où les deux victimes avaient croisé le même assassin. Âge, ethnie, statut financier et expérience, tout séparait les deux jeunes femmes, mais quelque part dans leur style de vie, il y avait quelque chose qui les reliait. Elle mit Bosch sur l'analyse de la scène de crime, les autres membres de l'équipe devant reprendre les déclarations des parents, amis et témoins. Tom Lafond, lui, suivrait la piste scientifique, les premiers enquêteurs n'ayant visiblement pas travaillé l'angle que la découverte du sang dans l'urine leur avait ouvert. Cette présence indiquait qu'une maladie possible des reins ou de la vessie, qui avait ou été traitée ou atteint un point où elle aurait dû l'être. « Ça pourrait aussi dire que notre suspect est décédé », lui fit valoir Lafond. « C'est peut-être le cas », lui renvoya-t-elle, « mais nous avons quand même toujours besoin de l'identifier et de clore l'affaire. Je ne pense pas vraiment utile de vous rappeler que M. Pearlman est notre saint patron à tous au conseil municipal, et que si nous arrivons à avoir des réponses sur ce qui est arrivé à sa sœur, nous pourrons garder cette unité en vie encore 5 ans. » S'il n'aimait guère les machinations politiques à l'œuvre dans l'affaire, Bosch comprenait parfaitement qu'un membre de la famille désire des réponses. Il lui avait lui-même fallu plus de 30 ans pour en obtenir sur l'assassinat de sa mère quand il était gamin. Elle ne lui avait pas permis de tourner la page, mais avait apporté une résolution à ses efforts, et il comprenait parfaitement ce que cherchait et dont avait besoin Jake Pearlman. S'il avait eu ce genre de pouvoir, il aurait fait la même chose pour sa mère. Au lieu de quoi, il avait usé de la force que lui conférait son badge. Ballard était arrivé tôt et avait glissé dans des paquets individuels des copies de ce dont chaque enquêteur aurait besoin dans son travail. Elle les leur distribua à la fin de la réunion. Harry ayant droit à un paquet de feuilles de 3 cm d'épaisseur, comprenant les rapports de médecine légale et les photos de scènes de crime de l'affaire Wilson. Avant de se mettre à la tâche, Bosch voulait faire quelque chose qui le tarabustait depuis qu'il avait interrogé Sheila Walsh. Il avait passé les 3/4 de sa nuit à se dire qu'il avait bousillé l'affaire de la famille Gallagher, en ratant quelque chose dans la façon dont on était entré chez elle par effraction. Dès que Ballard se fut rassise dans son poste de travail, il se leva et alla la voir. « J'ai besoin de chercher les antécédents, » dit-il. « Tu peux me faire ça ?»«
C'est pour l'affaire Wilson ?» demanda-t-elle.
« Déjà ?»« Non. Pour la famille Gallagher. »«
Harry, je veux que tu travailles les dossiers Wilson et Pearlman. » « Je croyais qu'on s'était mis d'accord là-dessus hier, et je viens juste de finir de dire à tout le monde combien c'est important pour nous. »«
Je vais m'y attaquer dès aujourd'hui, mais je n'ai pas fermé l'œil de la nuit en pensant à quelque chose. Et j'aimerais juste enclencher le processus pour voir à quoi je vais devoir revenir après Wilson, d'accord ?»«
Non ?»
Bosch tenait le rapport des empreintes retrouvées lors du bris de clôture chez Sheila Walsh. Ballard ouvrit la base de données du National Crime Information Center et lui lut le nom de la personne dont il voulait vérifier le passé criminel. « Jonathan Boatman, » dit-il, « né le 1er juillet 1987. » Ballard le tapa et attendit que la base lui donne une correspondance.
« Qui est-ce ? » demanda-t-elle.
« Le fils de Sheila Walsh, » lui répondit Bosch. D'un premier mariage, c'est probable, et elle a changé de nom lorsqu'elle a divorcé ou s'est remariée.
Et tu ne l'avais pas cherché dans la base de données ?
Je l'ai fait à l'époque et il avait le nez propre. C'est consigné dans le livre du meurtre. Mais maintenant, ce que je veux savoir, c'est s'il a toujours le nez propre.
Qu'est-ce qui te fait penser que ce ne serait pas le cas ?
Parce qu'hier, j'ai eu pour la première fois l'occasion de jeter un coup d'œil au rapport d'incident sur le cambriolage de la maison de Sheila. Les empreintes de McShane avaient été trouvées, et on pensait que c'était lui qui était entré par effraction. J'avais déjà pris ma retraite, et c'étaient les mecs du Devonshire qui géraient le dossier. J'avais entendu parler de ça par Lucy Soto, et pour moi, c'était le signe que McShane était toujours vivant et toujours dans le coin. Mais hier, j'ai eu une autre idée.
Pourquoi ?
À cause de ce rapport d'incident. On y lit que de la nourriture a été prise dans le frigo, qu'un sac à main a été vidé et qu'un téléphone portable et une collection de vieux micro-sillons ont été volés. Du boulot d'amateur, donc. Le genre de truc que fait un accro pressé, on pique de la bouffe, du liquide, et quelque chose qu'on peut revendre pour se faire un fixe.
Les disques. Je me rappelle qu'il y avait des boutiques qui achetaient des vinyles partout à Hollywood, à Moeba et quelques autres.
Les empreintes du fils avaient bien été retrouvées, mais écartées parce que sa mère avait dit qu'il venait souvent lui rendre visite.
Je vois où tu veux en venir. Au fait que les drogués ont l'habitude de dévaliser leurs parents avant de se lancer dans de vrais crimes, parce qu'ils savent que papa et maman ne les poursuivront pas en justice, au moins au début.
Voilà.
Ce qui fait que si l'auteur du cambriolage est son fils, qu'on ait retrouvé les empreintes de McShane à cet endroit, prend un tout autre sens.
C'est ce que je me suis dit. En plus du coup de fil qu'elle a passé hier après mon départ. J'espérais que ce soit un McShane, mais le fiston serait plus logique.
Mais pourquoi signaler le cambriolage si elle pensait que son fils pouvait l'avoir commis ?
Peut-être ne l'a-t-elle compris que plus tard. Beaucoup de gens dans cette situation ne veulent pas croire leur fils ou leur fille capable de faire un truc pareil. Les résultats de la recherche commencèrent à s'afficher à l'écran de Ballard.
Et voilà. « Boatman a effectivement un passé judiciaire, » dit-elle.
Bosch s'appuya d'une main sur le bureau pour se pencher et lire. Jonathan Boatman avait un casier pour possession de drogue, conduite en état d'ivresse et désordre sur la voie publique. Toutes ces arrestations s'étaient produites aussi bien après l'assassinat de la famille Gallagher, époque où Bosch aurait naturellement entré son nom dans la base de données, qu'après le cambriolage. Depuis, Boatman avait suivi le chemin de l'addiction jusqu'au crime. La mise en accusation pour possession de drogue avait conduit à un plaidé coupable qui lui avait permis d'échapper à la prison en suivant 6 mois de désintoxication au County USC Medical Center. Complet, le rapport du National Crime Information Center comportait des photos d'identité prises lors de son arrestation où l'on voyait clairement que Jonathan Boatman avait suivi la mauvaise pente. De cliché en cliché, il maigrissait jusqu'à en devenir émacié. Sur le dernier, il avait la peau couverte de taches, une plaie purulente à la lèvre inférieure et, plus révélateur encore, un regard mort traduisant une absence de réaction totale à sa déchéance dans le circuit judiciaire.
Rien qu'aux photos, je parierais pour la méthamphétamine, dit-elle.
Ouais, lui confirma Bosch en lui montrant l'écran du doigt. Toutes ces arrestations ont eu lieu après le cambriolage. Peut-être que si j'avais toujours travaillé sur cette affaire à l'époque, je l'aurais remarqué.
Mais tu n'y travaillais pas. Tu étais à la retraite.
Alors arrête de battre ta coulpe et peut-être que maintenant ça va nous conduire à quelque chose. Peut-être, oui. Mais Bosch avait toujours l'impression d'avoir Dieu sait comment laissé tomber le dossier et trahi la famille Gallagher. S'il était resté sur l'affaire au lieu de prendre sa retraite, il aurait vu que McShane et le cambriolage n'avaient rien à voir, et qu'il y avait une toute autre raison au fait qu'on avait retrouvé ses empreintes sur le presse-papier en verre. Comme si elle lisait dans ses pensées, Ballard essaya de l'absoudre encore plus. N'oublie quand même pas que Sheila n'a pas compris de quoi il s'agissait, elle non plus, et qu'elle a appelé la police. Tu n'es pas tout seul.
« C'est une mère, » lui envoya-t-il. « Moi, je suis flic. Enfin, je l'étais. »«
Je te dis de ne pas... Pourrais-tu juste m'envoyer ce rapport, avec les photos de l'identité ?»«
Allons, Harry. C'est exactement pour ça qu'on reprend ces dossiers, pour les voir d'un œil nouveau, pour repérer ce qui a été manqué. »
Alors, contente-toi de cette petite victoire, tu as un nouvel angle à travailler.
Bon alors, tu vas me l'envoyer.
Oui, je te l'envoie. Mais arrête de courir après cette affaire. J'ai besoin de toi pour Pearlman et Wilson. Et je ne plaisante pas.
T'inquiète pas, tu auras mon avis sur la scène de crime et le rapport de médecine légale avant la fin de la journée.
Bosch retourna à son poste de travail pour y attendre son mail. Dès qu'il eut le rapport du NCIC à l'écran, il l'expédia à l'imprimante et remarqua que la dernière arrestation de Boatman remontait à 2 ans. Il n'était pas impossible qu'il se soit soigné et tenu tranquille depuis lors, au regard de la loi 100 ans. Qu'il ait censément un job d'entretien de green de golf l'indiquait fortement. Il regarda les photos d'inculpation comprises dans le paquet et grava le visage de Boatman dans sa mémoire. Puis, il chercha l'adresse du Country Club de San Canyon et l'entra dans l'application GPS de son téléphone portable. Il referma son ordinateur portable, se leva pour gagner l'imprimante et partit.
« Harry, tu t'en vas ?» lui demanda Ballard alors qu'il passait derrière elle.
« Je vais à l'imprimante, » répondit-il. « Et après, je fais un tour en voiture. »«
En voiture ? Pour aller où ?»«
Ne t'inquiète pas, je vais revenir. »
Il sentit que Ballard le fixait, tandis qu'il continuait d'avancer.
Monté dans sa Cherokee, il bouclait sa ceinture quelques instants plus tard lorsqu'il reçut un SMS d'elle. Elle était en colère.
« Tu me casses mon autorité quand tu t'en vas comme ça. Je t'en prie. » « Ne le refais plus. »
Il fut partagé entre contrition et agacement. Il essayait de résoudre l'assassinat d'une famille entière, et pour lui ça prenait le pas sur tout le reste. Il lui renvoya un SMS, mais s'abstint d'écrire quoi que ce soit qui aurait pu encore plus enflammer la situation.
« Je suis vraiment désolé. Tu sais comment je peux m'emballer dans une affaire, ça ne se reproduira pas. »
Il attendit une réponse, qui ne vint pas. Il fit démarrer sa voiture et se dirigea vers la sortie du parking. Quelques minutes plus tard, il se retrouvait sur la 405 direction nord, dans la circulation modérée du milieu de matinée. L'autoroute étant aérienne à cet endroit, il avait une bonne vue sur les tours de Century City sur sa droite et les montagnes de Santa Monica droit devant. D'après son GPS, il arriverait au Country Club de San Canyon dans 58 minutes. Il alluma la radio, passa sur la station K-Jazz et tomba sur la version du Shellyburg Trio de la chanson des Beatles Blackbird. Il monta le volume. Il n'y avait pas meilleure musique pour rouler.